Alors, merci aux gens de Gatineau et d'Ottawa qui nous écoutent sur le 104.7. Ma chère Valérie Leboeuf, tu viens me rejoindre comme à chaque fois qu'il y a un point de presse.
Bonjour.
Content de te revoir. Alors, tu as écouté Justin Trudeau.
Oui, Justin Trudeau qui a pris la parole au cours de la dernière heure. En fait, il a parlé notamment de la vaccination. Il a demandé aux gens d'aller se faire vacciner, mais il a aussi été questionné sur le passeport vaccinal. Est-ce que ça se pourrait qu'on ait ce type de passeport pour pouvoir faire des activités à travers le pays, par exemple?
Ou aller voyager.
Oui. Mais il était un peu hésitant.
Ah oui?
Oui, je te laisse entendre.
Ça y arrive. On l'écoute.
On veut trouver le bon équilibre. On veut encourager tout le monde de se faire vacciner et d'avoir plus de liberté. Mais il faut s'assurer qu'on n'est pas en train d'être injuste contre des gens déjà marginalisés ou déjà vulnérables ou des fois il y a un peu plus de réticence.
De qui il parle, là? Excuse, mais...
Ben, ce bout-là, c'est ça. De qui il parle? De gens marginalisés, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, il y a des gens qui sont dans la rue aussi, qui ont peut-être moins accès à la vaccination. Bref, ce qu'il ne veut pas, c'est faire une différence entre certaines personnes et d'autres personnes.
OK.
C'est ce qu'il a dit. Puis, il nous a... Ben, en fait, il nous a remercié parce qu'il a dit au Québec, franchement, ça vaccine bien. Ça va très bien.
Ah oui?
Oui, bien...
Il s'en va en élection. Il a besoin des voix du... Ah oui? Mais on va l'écouter pareil.
OK.
Au Québec, la vaccination progresse très bien. J'aimerais remercier tous ceux qui font partie de cet incroyable effort pour garder les Québécois et les Canadiens en sécurité. Si c'est votre tour de vous faire vacciner, vous pouvez faire votre part en prenant un rendez-vous. Continuons à travailler tous ensemble pour en finir avec cette pandémie le plus rapidement possible.
Et on s'en va au point de presse immédiatement.
Bonjour tout le monde. Hier soir, comme on le fait à peu près tous les lundis soirs, on a fait le tour de la situation dans les différentes régions du Québec avec le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique, les experts de l'INSPQ et de l'INES. Et puis, la situation va très bien. On s'en va vraiment dans la bonne direction. On a une baisse des cas, des hospitalisations. Le taux de positivité est passé de 2,8 à 2,6 en moyenne dans la dernière semaine. Donc, on est en train de passer à travers la troisième vague, quoique faut continuer de rester prudent. Première chose que je veux vous annoncer, d'abord, bonne nouvelle, en Outaouais, on a vraiment repris le contrôle de la situation. Baisse des cas, baisse des hospitalisations. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, on va sortir l'Outaouais des mesures d'urgence. Ça veut dire concrètement que le couvre-feu va passer à 9h30. Les élèves du secondaire vont retourner à l'école, sauf secondaire 3, 4, 5 qui vont être en alternance. Et les commerces non essentiels vont rouvrir. Un mot peut-être pour dire quand même aux policiers puis aux gens à la frontière avec l'Ontario. Évidemment, la situation est plus grave en Ontario. Donc, on demande aux policiers de continuer à faire de la surveillance sur une base aléatoire. Mais c'est important que les gens de l'Ontario respectent les règles de l'Ontario. Ils ne sont pas supposés d'aller dans les commerces en Outaouais. Donc, c'est important là, que tout le monde soit prudent. Puis, on va demander à nos policiers de continuer leur travail, là, entre autres, l'Outaouais puis Ottawa. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, là, mais pour les gens qui n'ont pas absolument besoin d'aller dans un commerce, là, c'est interdit. Donc, ça va bien en Outaouais. Continue de bien aller aussi à Québec, dans pas mal toutes les régions, sauf trois. Trois régions, je devrais dire sous-régions, où ça continue, où on continue de voir vraiment beaucoup de contagions. D'abord, le Bas-Saint-Laurent, quatre RLS, le Témiscouata, Kamouraska, les Basques et Rivière-du-Loup. Malheureusement, la situation ne nous permet pas de lever les mesures d'urgence. Donc, ça veut dire que dans ces quatre endroits, on va continuer d'avoir le couvre-feu à 8 heures. Malheureusement, les élèves du secondaire, avec l'enseignement à distance, puis les commerces non essentiels fermés. Par contre, à Rimouski, la situation s'est améliorée. Donc, là, on va retomber aux mesures zone rouge, ça veut dire couvre-feu à 9h30, école secondaire ouverte et commerce non essentiel ouvert. Bon, il y a deux autres régions qui sont inquiétantes. D'abord, dans Chaudière-Appalaches, il y a Beauce et Etchemin. Puis en Estrie, il y a le RLS qu'on appelle le Granit, là, autour du lac Mégantic. On va réouvrir les écoles secondaires avec la permission de la santé publique dans ces deux coins-là, mais le couvre-feu va rester à 8 heures et les commerces non essentiels vont rester fermés. Donc, je lance un appel, vraiment, là, c'est très restreint comme zone, là, mais en Beauce, dans le Bas-Saint-Laurent et dans le coin du lac Mégantic, il faut vraiment être plus prudent, là, il y a beaucoup, beaucoup de cas actifs en pourcentage de la population. C'est important qu'on reste très prudent avec le moins de contacts possible. Bon, je le disais, dans les autres régions, ça va bien. Entre autres, trois grandes régions autour de Montréal, Lanaudière, Laurentides, Montérégie. On sent que ça s'en vient, la zone orange et les restaurants. Donc, j'espère bientôt avoir l'accord de la santé publique dans ces trois grandes régions. Ce qui me fait le plus plaisir dans la situation actuelle, c'est que toutes nos écoles sont ouvertes, bon, sauf quelques endroits dans le Bas-Saint-Laurent, malheureusement, mais je mets au défi qui que ce soit de trouver en Amérique du Nord un endroit où on a eu autant nos écoles ouvertes depuis le début de la pandémie, il y a 14 mois. Pour nous, ça a toujours été une vraie priorité. Ne serait-ce que pour ça, je lance un appel à continuer d'être prudent d'ici le 20-24 juin, là, à la fin des classes. C'est important que nos enfants restent à l'école. Puis j'en profite aussi pour dire merci aux enseignants, aux directions d'école, à tout le personnel des écoles qui nous ont permis de garder nos enfants à l'école. C'est important pour leur apprentissage, c'est important pour leur vie sociale, leur santé mentale. Donc, très content qu'on soit dans cette situation-là. Sinon, bien, l'été s'en vient. L'été s'annonce mieux que l'été passé. D'abord, quand on regarde les hospitalisations, les nouvelles hospitalisations, on en a la moitié moins qu'à la même date l'année passée. Quand on regarde les décès, on en a 10 fois moins qu'à la même date l'année passée. En plus, on a la campagne de vaccination qui va vraiment bien. Là, vous avez vu dans les CHSLD, tous ceux qui avaient eu une première dose ont maintenant eu leur deuxième dose. Ça veut dire que nos plus vulnérables sont protégés. Cette semaine, on devrait dépasser 75% pour les 50 ans et plus. Ça a bien été avec les 30 ans et plus, leur inscription. Puis demain, bien, ça va être le tour des 25 ans et plus. Donc, je veux faire un appel à tous les jeunes du Québec, là. Vacciner, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner, tous les jeunes, allez-y en masse. On compte sur vous autres, on a besoin pour avoir la protection communautaire de votre collaboration. Donc, on invite, puis le ministre de la Santé aussi l'a fait sur Facebook ce matin, là, on essaie de trouver tous les moyens possibles. Donc, je fais un appel aussi aux parents, aux amis. Il faut que les jeunes, là, à partir de demain, c'est 25 ans. Donc, en terminant, ben, je pense qu'on est en train de passer à travers la troisième vague. On continue de discuter avec la santé publique. J'espère, dans les prochaines semaines, être capable d'arriver avec un plan complet d'assouplissement, un retour graduel à la normale. Et je le sais, on a tous hâte de se retrouver, donc continuons à être prudents pendant les prochaines semaines. L'été qui s'en vient s'annonce très bien. Good afternoon, everyone.
OK. C'est pas mal pep talk aujourd'hui, hein, n'est-ce pas, Valérie Lebeuf? C'est la majorette en chef là, qui... Attends un peu, la majorette, non, c'est la meneuse de claque en chef. La majorette, c'est autre chose. Hein?
Ouais.
Mais remarque, la majorette, c'est celle qui faisait virer le bâton.
Oui, ouais, c'est ça.
Et c'était la première en avant, mm-hmm. là. Ouais, je sais pas comment est-ce qu'on l'appelait, cette majorette-là.
Mais c'est parce que, je sais pas c'est qui a écrit le discours de M. Legault, là, mais les rimes, puis tout ça, je suis pas sûre que ça va influencer les jeunes. Je pense que ça va être autre chose qui va les influencer. Tu sais, comme sortir dans les bars, puis recommencer à se voir, puis à se fréquenter, puis tout ça, je pense que c'est ça qui va donner le goût jeune d'aller se faire vacciner.
Bon.
Plutôt que...
Mais enfin, cela étant dit, écoute, il nous fait miroiter un bel été.
Oui.
Hein? Ça rime avec liberté et, oui. et fierté.
Oui, c'est ça.
hein? Se faire vacciner, ça rime avec solidarité, avec fierté, avec liberté, avec un bel été.
Oui.
ben, écoute,
peu, ouais.
coudon.
Non, c'est ça.
Non, mais c'est... Hein? Bon, vas-y, alors...
Ben, j'allais dire, ben, c'est ça, on a deux fois moins d'hospitalisations qu'à pareille date l'année passée. On a 10 fois moins de décès.
Oui.
Ce qui fait en sorte que c'est sûr qu'on va avoir un meilleur été que l'an dernier. Puis il faut, somme toute, rappeler que l'année passée, c'était pas si mal l'été. Ça avait quand même été une période d'accalmie.
Tu as raison de nous le rappeler. C'est vrai qu'on avait eu, somme toute,
oui.
hein, surtout après le printemps qu'on avait eu, là, on a... Alors, si c'est pour être mieux que l'été passé, ma foi, on va pas s'en plaindre. Il y a encore quelques régions du Québec où ça va pas très bien,
mm-hmm.
mais honnêtement, c'est très circonscrit. Puis la oui. bonne nouvelle, c'est que l'Outaouais va retourner en zone rouge normale.
Normal, c'est ça. Hein? Les écoles vont pouvoir ouvrir. Couvre-feu aussi qui va revenir à 9h30. Mm. Et ça s'en vient à la zone orange pour les régions des Laurentides, la Naudière et Montérégie.
Ouais, il n'a pas parlé de Montréal.
Non, il n'a pas parlé de Montréal.
Il n'a pas, pas parlé de Laval.
Non plus. Pourtant,
mais ça
régions,
se rapproche.
Ben
ça
oui.
se rapproche. Bon, alors, on va aller à la période des questions. Peut-être la question Montréal lui sera posée.
Bonjour, messieurs. D'abord, une question pour M. Dubé, une question de logistique. La campagne de vaccination avance bien, même que, semble-t-il, on va pouvoir avoir atteint les objectifs de 75 % plus tôt que le 24 juin, c'est ce qui semble se défiler. Donc, je vous demande, qu'est-ce qu'on fait avec les rendez-vous qui ont été pris pour les deuxièmes doses? Est-ce qu'on va simplement demander aux Québécois de venir 2 semaines plus tôt, par exemple? Puis, est-ce que ça risque pas d'amener des problèmes?
Bien, j'apprécie la question parce que une des premières choses qu'il faut attendre, je vous ai parlé de la recommandation du CIC la semaine dernière pour les 12-17 ans. C'est sûr que la question des 12-17 ans va passer essentiellement avant la deuxième dose. Alors, moi, je vais avoir la recommandation du CIC. On me l'a dit que je l'aurai probablement mercredi de cette semaine. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si on a besoin de devancer des rendez-vous ou pas, parce que, comme vous voyez, nos 12 à 17 ans, on les ferait probablement à la fin juin. Donc, puis c'est quand même 500 000 personnes, vous vous souvenez, quand on en a parlé la semaine dernière. Donc, j'aimerais mieux vous confirmer que le CIC est d'accord avec cette période-là pour qu'on puisse dire comment on a besoin de réorganiser, si besoin il y a, la deuxième dose. Mais en ce moment, j'aimerais mieux avoir la recommandation du CIC pour l'ordre en question.
Merci. Toujours sur la vaccination, vous avez vu, M. Dubé, que Montréal est la région du Québec, la deuxième région du Québec où il y a le moins de couverture vaccinale. Comment vous l'expliquez, puis comment vous comptez vous attaquer à ce problème?
Bien, il y a deux raisons. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner à Montréal, mais qui étaient des résidents hors de l'île. On a beaucoup, hein, comme vous savez, entre autres, de travailleurs de la santé ou les travailleurs point. Qui viennent à Montréal et qui se sont fait vacciner. Donc, je pourrais dire que Montréal s'est fait prendre des vaccins par des gens d'extérieur, mais c'est quand même pour le bien commun, donc il n'y avait pas d'enjeu là. Le deuxième, c'est qu'on a réalisé, puis on est en train de vérifier ça avec la RAMQ. Là, j'aurais aimé ça que ça soit ajusté dans les derniers jours, mais on m'a dit que ça se ferait prochainement. On a probablement quelque chose comme 30 à 40 000 d'adresses qu'on a à corriger. Et ça viendrait régulariser déjà peut-être 2 % qui viendraient s'ajouter à Montréal. Parce que, vous savez, il y a plus de déménagements à Montréal qu'il y a dans le 450. Alors, on m'a dit qu'il y avait des corrections d'adresse à faire à peu près entre 30 à 40 000 personnes. Et ce qui viendrait peut-être de corriger un autre 2 % qui viendrait s'ajouter à la vaccination de Montréal. Alors, on est en train de regarder ça avec nos équipes pour corriger ça le plus rapidement possible.
Nous poursuivons avec les questions de Véronique Prince, Radio-Canada.
Oui, bonjour. Vous venez de dire que cette année, on est dans une meilleure situation pour l'été que l'an dernier, là. Ça va faire 6 mois qu'on est en couvre-feu là, pratiquement partout au Québec. Là. En fin de semaine, il va faire 20 degrés, beau soleil. Est-ce que c'est pas rendu un irritant à ce moment-ci? Est-ce que c'est encore justifié d'avoir un couvre-feu, premièrement? Et deuxièmement, je sais pas si pour la fête des mères, vous êtes allé faire un tour dans un parc, là, mais il y avait 4 pique-niques au pied carré. Là. Est-ce qu'on n'est pas rendu à un moment où on devrait permettre des rassemblements extérieurs dans les cours arrière?
Mais je veux pas faire d'annonce aujourd'hui, compte tenu que les travaux sont pas terminés, mais je veux vous dire que notre plan d'assouplissement va être empreint d'espoir, d'un peu plus de liberté, mais aussi de prudence. Fait que ça, je veux quand même que les gens sachent là, qu'on est très conscients. Quand on fait quand même des sondages, l'Institut fait des sondages auprès de la population là, par rapport au couvre-feu, indépendamment de ce qu'on peut dire, là, beaucoup de gens considèrent que le couvre-feu, c'est encore un élément important. Je veux juste vous dire par rapport aux sondages qui ont été faits récemment. Et aussi, certains même pensent que les mesures ne sont pas assez restrictives. Juste pour vous dire dans les faits qu'il y a encore quand même cet élément-là. D'où, pour moi, le message important à dire aux Québécois, c'est qu'on s'en vient. Puis la meilleure façon de l'atteindre, c'est la vaccination. Et je peux vous dire, là, et ça, j'invite les jeunes particulièrement, parce que ça va être des semaines de jeunes aussi, là, qui font partie de la solution aux autres. Donc, le mois de mai, c'est le mois de la vaccination, puis c'est avec ça qu'on va être capable de ramener nos épidémiologies à des couleurs comme on n'a jamais connues et se donner plus de liberté.
Je voudrais vous entendre aussi sur les personnes décédées. Il y en a des centaines, en fait, qui sont décédées dans les hôpitaux des suites de la COVID-19 après l'avoir contractée là, dans un établissement. À Maisonneuve, Rosemont seulement, on compte 150 décès. Alors, jusqu'où la situation vous préoccupe? Est-ce que ce serait au point d'accélérer la reconstruction de cet hôpital-là qui est vétuste?
Bien, on l'a vu, la plupart des hôpitaux où on a eu des problèmes plus importants, parce qu'on en a eu un petit peu partout, mais Maisonneuve-Rosemont est un bel exemple, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, les hôpitaux Saint-Mary's, les hôpitaux qu'on peut dire, surveillez mes mots, vétus, là, et je pense que la proximité pour la plupart des gens qui sont déjà allés dans ces hôpitaux-là, on voit comment les corridors sont étroits, comment il est difficile de se déplacer, la moindrement qu'il y a quelque chose dans un corridor. Non, vous avez absolument raison. Moi, ça fait deux fois là, dans les deux derniers mois que je vais à Maisonneuve-Rosemont pour voir c'est quoi les choix, est-ce qu'il y aura un nouveau site. On est vraiment en train de regarder, mais je pense que on l'a vu comment on n'est pas dans la même situation avec le CHUM puis le CUSUM quand on est dans des hôpitaux modernes. Alors, c'est sûr qu'il y avait eu un désinvestissement dans nos, un peu comme dans nos écoles, mais je pense que dans nos hôpitaux, c'était flagrant. Alors, j'ai réussi à obtenir de ma collègue au Trésor puis aux Finances là, un rehaussement encore du PQI pour nos hôpitaux. Alors, c'est sûr qu'on a des projets qui sont sur la table à dessin pour faire des rénovations importantes dans nos hôpitaux. Vous avez raison.
Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
Bonjour à vous trois. Dans le cadre de son enquête, est-ce que Mme Castonguay vous a rencontré chacun d'entre vous combien de fois et combien de temps, ainsi que Mme McCann?
Bien, moi, j'ai été rencontré à peu près une heure par Mme Castonguay.
Et M. Arruda, M. Dubé?
Moi, je pense que ça a duré au moins une heure et demie. Et voilà, mais j'ai parlé quand même quelques fois au téléphone parce qu'on a besoin souvent pour demander de l'information parce que souvent l'information passe par le ministère de la Santé. J'ai eu plusieurs contacts avec elle.
Moi, c'est une rencontre qui a duré 2 heures, si je me souviens bien. Entre 1h30 et 2 heures, là, parce qu'il y avait du temps, effectivement.
Par ailleurs, pour revenir à la question de la pandémie, vous avez fait allusion à l'espoir qui s'en venait, M. Legault. Et vous avez parlé de la zone orange, des restaurants. Qu'est-ce qui manquerait pour qu'on en arrive donc à donner ce qu'il faut aux restaurateurs pour les terrasses ou les gens qui attendent la levée du couvre-feu? Qu'est-ce qui manque là actuellement?
Ce qui manque, c'est une circulation moins intense comme telle, de revenir à des paliers où il y a une moins grande incidence. Mais ça s'en vient. Et pour contribuer à ça, la vaccination des gens avec une première dose, avec une deuxième dose, ça va nous permettre automatiquement d'avoir un effet sur l'épidémiologie. Il y a le beau temps aussi qui va jouer. Donc, je ne veux pas faire d'annonce aujourd'hui, mais on va y aller progressivement, mais on va redonner de l'espoir à tous les secteurs d'activité au Québec.
Bon, il nous titille, Horacio, là. Ça fait une couple de fois qu'il nous dit ça s'en vient, là, puis je veux pas faire d'annonce trop rapide, là, mais on y travaille, là, puis c'est genre, je te le dis que ça... ça prendrait pas grand-chose, mon Luc, là, me semble, là, on pourrait le mettre dans un petit coin noir, lui, puis toi puis moi, puis je pense qu'il finirait par cracher le morceau, notre Horacio, hein? Finirait par dire, oui, ça s'en vient, là, je vous le dis.
Je le connais, le plan, mais le premier ministre m'a dit de pas vous le dire tout de suite, parce qu'il veut vous garder une surprise.
Une bonne fois,
il va vous faire une conférence de presse à 17h au lieu de 13h, puis c'est le jour où il va vous annoncer. Mesdames et messieurs, la liberté vous attend.
Dis-moi donc, tu penses qu'il y a un petit peu de politique en dessous de ça?
Ben voyons donc, Bernard. On peut-tu reprocher à un politicien de faire de la politique?
Mais
tu
non.
Tu me diras, Arruda n'est pas un politicien. On verra après la pandémie. Ben, j'ai l'impression que ça va y tenter.
Il fait un petit peu de politique, Horacio. Tu peux pas être dans son travail pour faire un petit peu de politique. Ça, c'est comme les bons mots de Justin pour les Québécois. Il y a peut-être un
Les Canadiens.
Non, les Québécois sais, qui a dit, les Québécois qui a dit, puis tu te dis, ben, écoute, ça, c'est sûr que ça vient de son fond, mais peut-être,
cette expression.
Mais oui, ça vient de son fond, tu sais bien, Luc. Mais peut-être qu'il se dit aussi, ben, si je flatte les Québécois dans le sens du poil, peut-être qu'ils vont être gentils avec moi quand va arriver l'élection dans quelques mois. Hein?
Bien, en plus, Bernard, t'as les rimes qui sont là.
Ah, non. Je suis un poète. Moi, je suis un poète.
Un vrai poète.
Bernard. Je suis un poète. Alors qu'est-ce que tu retiens, mon cher Luc?
Ben, je t'ai appelé ça un pep talk tantôt. Je pense que ça résume un peu ce qui était. Pas grand-chose à annoncer.
Non.
Là. Bon.
Non.
Et je pense, j'y en veux pas, là. Pas du tout, je le condamne pas, là. Mm. Mais il aime ça jouer, là. Dans les prochaines semaines, un plan complet d'assouplissement, espoir de plus de liberté, blablabla. Je pense qu'il nous prépare, là. Il dit, restez calme encore un petit peu. Je sens, Bernard, que ça va être la semaine prochaine. Quelque chose de même.
Tu penses que ça va être... Ben moi, ça a de l'allure, parce que...
Mais ça marche très bien, la
vaccination.
Ça marche vraiment.
J'allais dire, s'ils s'aperçoivent là que les jeunes prennent des rendez-vous puis vont se faire vacciner massivement cette semaine, là, puis que quand ils vont ouvrir au plus jeune vendredi, là, ils s'aperçoivent que la machine là marche tempête, puis que les jeunes vont sur Clic Santé, puis tu vois, peut-être qu'ils vont se dire...
La vaccination en entreprise se poursuit. J'ai parlé à quelqu'un de Bombardier, il est allé là avec sa famille.
Ah oui? Ça a bien été.
C'est merveilleux, tu sais, parce que il leur donne d'abord accès en priorité aux employés et aux membres directs de leur famille, épouses et enfants. Alors, ça va à toute vitesse. Et en plus, ils en distribuent à des gens qui vivent dans le périmètre ou dans le quartier.
Dans la communauté autour. C'est-tu vrai que si tu vas te faire vacciner avec Bombardier, ils te font faire un tour de Challenger après?
Oui, c'est ça. Autrefois, ça aurait été un tour de train, mais ils n'ont plus.
Non, autrefois, ça aurait été un tour de skidou.
Ah oui, un tour de skidou. Ben, en été, Bernard, c'est du sidou.
Oui, du quatre roues. Ils fabriquent des quatre roues, là, à Valco. Faut pas oublier ça. Bon,
on arrive à la fin. Ouais, là, moi, je le sens, puis toi, tu le sens, puis j'espère que les gens le sentent. Et qu'ils vont aller se faire vacciner, les jeunes en particulier, j'y tiens tellement. Je sais pas comment faire, là. J'en entends qui ont des réactions du genre « je m'en fous ». Je trouve ça de la difficulté à comprendre le « je m'en foutisme » après ce qu'ils viennent de vivre. Mais grosso modo, j'ai plutôt l'impression que la vaste majorité des jeunes va y aller.
Toi, tes filles ont quel âge encore, Luc? Rappelle-moi donc.
Mes filles ont maintenant 37 ans et 33 ans.
OK. Ben, c'est des jeunes femmes.
Ce sont des jeunes femmes. Elles sont vaccinées.
Elles sont vaccinées, elles ont pris leur rendez-vous.
La plus jeune, parce qu'elles vivaient dans Côte-Saint-Luc.
Ah, ben oui.
Où on avait décrété qu'il y avait une zone d'éclosion.
Oui.
Et la plus vieille, ben ma foi, je pense qu'elle a été vaccinée il y a une heure.
Ah, ben oui, ben bravo. On la félicite. Tu vois, j'ai quelqu'un qui m'écrit à la Pratt & Whitney à Longueuil, famille et employés en premier. Oui. Et j'imagine qu'après ça, il y a des gens de Longueuil qui nous écoutent, qui vont pouvoir aller se faire vacciner à Pratt & Whitney, dans les installations de la Pratt & Whitney. C'est André qui nous écrit.
Ouais. Bernard, juste à côté d'où tu es présentement,
ouais.
C'est le siège social de la Banque nationale.
Ben oui.
Et là, il y a toute une installation aussi. Là. C'est sérieux, là. Et chez CAE, malheureusement, aujourd'hui, ils ont été obligés de fermer.
Mais oui.
Fermer le centre de vaccination parce qu'ils ont découvert que dans le personnel qui accueillait ou que je ne sais trop quoi, qui s'occupait des gens qui se présentaient, il y avait des gens qui, il y avait une personne qui était positive. Et là, on ne sait pas, ça va être fermé 24 heures, 48 heures. J'en connais pas les détails. Mais grosso modo, en plus, les vaccins à l'auto, ça commence. En plus, il y en a plus dans les pharmacies. Tu sais, là, on peut pas se plaindre. Si tu vas pas prendre ton vaccin, c'est parce que...
C'est parce que tu veux pas, là.
C'est hein? parce que tu veux vraiment pas.
Ouais.
Puis je répète aux gens qui nous écoutent, souvent, là, les gens qui veulent pas, prends-les à part. Quelqu'un que tu connais bien, que t'aimes bien. Puis parle-leur doucement, ils vont finir par y aller. Ils vont finir par y aller. Je sais pas d'où vient leur entêtement, mais ils vont finir par y aller. Il y a aucune donnée médicale, scientifique, qui justifie d'être inquiet à l'heure actuelle. Il n'y en a pas.
Ouais.
Oublie même le AstraZeneca, revenons à ça juste pour le plaisir. Là. Écoute, c'est plus dangereux d'avoir une thrombose si tu prends l'avion pendant 4 heures et plus. Hein? Tu as 20 fois plus de chances que d'avoir une thrombose en ayant le AstraZeneca. Bon. Connais-tu beaucoup de gens qui se privent d'aller en Europe ou d'aller dans le sud pour les vacances?
Ben non, ben non.
Alors, tu comprends, je pense qu'on est passé par-dessus ça.
Bon.
Et je sais pas, là, pour la première fois, Bernard, tu sais pas si tu te souviens quand ça a commencé, tout ça, c'était le 13 mars, la première conférence de presse Québec sur pause.
Je pense que oui, autour de ça, là. Ouais.
Et toi et moi, on faisait l'émission, puis ce qu'on se disait en coulisses, c'est on va en avoir pas un mois et demi. Hein. C'était ça que les gens pensaient. Pis c'est ça qu'on pensait. Tu t'en souviens, non?
Ben oui, non,
on
mais
se
écoute.
Disait, ben écoute.
Écoute.
Rendu au mois de mai, ça va être correct.
Hey, sais-tu ce que mon père de 85 ans m'a dit en fin de semaine?
Vas-y.
Papa, il m'a dit c'est notre grippe espagnole.
Ah ben oui, c'est...
Mais il a raison, il a raison.
C'est tout à fait ça.
Il a raison. Puis sais-tu quoi, il me disait, mon père, il me disait, si tu vas dans le cimetière de l'île du Pod, d'où on vient,
oui.
Il dit, va voir, tu vas voir, il y a des pierres tombales, là. Tu vas voir, il y a plusieurs personnes qui sont décédées au moment de la grippe espagnole. Il dit, tu vas les voir, là. Tu sais, dans une même famille, là, t'en as deux, trois, là, qui sont décédés à peu près en même temps. Il dit, ça, c'est la grippe espagnole, Bernard.
Ah, ben oui, t'sais? Ben oui. Bon. Ce qui est incroyable avec la grippe espagnole, c'est qu'on a eu beaucoup plus de décès au Québec, au Canada, qu'on en a eu pendant la Première Guerre mondiale, puis ça suivait, là. La grippe espagnole a commencé au printemps 1918. Puis la guerre s'est terminée en novembre 1918. Alors, la première vague, c'était pendant la guerre. La deuxième vague, c'était au retour. Puis la troisième vague, bon, évidemment, après le retour. Alors, ça a fait plus de décès que la guerre elle-même, avec ses tonnes et ses milliers de tonnes de bombes et tout ce que tu voudras. Alors, cette fois-ci, heureusement, la science a évolué.
Et voilà, c'est ce que j'allais dire.
Je pense aussi, je pense que j'aime ça le répéter, là, mais que comme gestionnaire de crise, la combinaison de Christian Dubé et François Legault est un cadeau du ciel. Ces deux-là se sont conduits avec beaucoup d'aplomb, se sont conduits avec un calme remarquable. Et je l'ai déjà dit, je le répète, la plus belle qualité de politicien à mes yeux de François Legault, c'est qu'il n'a pas peur de prendre des décisions en sachant qu'il y a peut-être une taloche qui va suivre ou qu'on va peut-être faire une erreur, mais c'est quelqu'un qui veut améliorer la situation. Et Dubé semble avoir changé l'atmosphère dans le ministère de la Santé. Tu vois, même aujourd'hui, il a confirmé ce que Véronique Prince lui demandait pendant la conférence de presse. Il a dit « Oui, c'est vrai, je suis allé voir Maisonneuve Rosemont, un hôpital vétus, il en a nommé deux, trois autres, celui de
Sainte-Mary's,
corridor trop étroit. » Puis là, il dit « On est obligé vraiment de se pencher là-dessus. » Donc, il y aura quelque chose qui va émaner de cette pandémie. Je pense qu'on va avoir un meilleur système de santé. Puis j'espère que M. Dubé va rester aux commandes du ministère pendant encore une couple d'années, parce que maintenant qu'on sera sorti de la pandémie, pourrais-tu nous ramener un système de santé qui fonctionne, s'il
mais
vous plaît?
Mais c'est intéressant, parce que je parlais avec un stratège caquiste la semaine passée ou la semaine d'avant, puis il m'a dit, on espère que la culture du ministère de la Santé, du réseau de la Santé, sera durablement transformée. Il y a des choses qu'on a faites, là. T'sais, on a poussé sa machine, on a poussé sa bureaucratie, puis on espère qu'une partie de cette culture-là qu'on a réussi à mettre en place pendant la pandémie, qu'on pourra conserver en termes de rapidité d'exécution, puis de souplesse d'action. Puis, alors, je trouvais ça très intéressant, Luc, on aura l'occasion d'en reparler pour voir effectivement l'effet durable de la pandémie, puis est-ce qu'il y a des effets positifs qui vont durer dans le temps.
Moi, je pense que oui, puis tu sais, l'état d'esprit des travailleurs de la santé, que ce soit les gens de première ligne, que ce soit les gens qui sont dans les bureaux derrière, qui s'occupent d'approvisionnement et de tout ce que tu veux, je suis sûr que cet état d'esprit a changé.
D'accord.
Ils peuvent plus maintenant, tu sais, prendre des petites décisions niaiseuses. Ils ont compris là que c'est sérieux. Là.
Merci, Luc.
Tantôt.
Alors, j'ai quelques textos. J'ai 18 ans, j'ai pu me faire vacciner parce que je suis autiste. Honnêtement, j'espère que les jeunes de mon âge vont se faire vacciner. Ça s'est bien passé pour moi. Je me suis fait vacciner le 7 mai. Bravo, mon auditeur de 18 ans. Carl, il dit, mon vaccin, c'est ce soir. J'ai hâte, mais j'ai peur des aiguilles. Carl, ça va bien aller. Ça va bien aller. Je te le dis, ça fait pas mal. En tout cas, dans mon cas, à moi, ça n'a pas fait mal. J'ai quelqu'un qui m'écrit, il dit, Bernard, dans ma division chez Cascade, après la deuxième dose, les employés reçoivent une montre Fit. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, j'ai quelques témoignages comme ça encore, là, plutôt positifs. Alors, on lâche pas! On lâche pas! On est capable! Ça s'en va dans bonne direction. Tu sais, on descend à montagne, là. Tu sais, on descend à montagne. C'est ça. On s'en va vers le fil d'arrivée tranquillement, pas vite. Après la pause, tout n'est pas dit, tout n'est pas réglé. La santé mentale chez les jeunes, va falloir continuer à s'en occuper. Et il y a des pédiatres qui trouvent qu'ils sont mal équipés pour s'en occuper. Ça va être mon dernier sujet de l'heure. Et juste avant ça, on aura Lise Ravary qui va venir nous parler du projet de prolonger la ligne bleue. Écoute, ça fait depuis 1979 qu'on en parle et là, on est rendu à 6 milliards. C'est plus qu'un milliard par station, parce que le prolongement, c'est 5 stations à 6 milliards, ça n'a aucun bon sens. Le gouvernement Legault a dit non, il faut revoir le projet pour que ça rentre dans le budget de 4,5 milliards. Pour 5 stations, reste que c'est pas loin d'un milliard par station. Lise Ravary nous en parle après la pause.